Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne, Sophie Peters.
Et bienvenue dans la libre antenne à cette heure un petit peu plus tardive, mais l'essentiel reste de passer ce moment avec vous où l'on discerne ensemble ce qu'on peut changer de ce qu'on ne peut pas. Et dans cette perspective, il s'agit de se positionner plus dans l'action que dans la réaction. L'action est aussi un mode d'être, c'est-à-dire qu'elle revient à prendre en main la responsabilité de sa vie plutôt que de rechercher des causes dans les circonstances ou les personnes extérieures. C'est aussi déterminer son propre rythme et être propulsé par ses valeurs intérieures. Les décisions personnelles dictent alors le comportement. Tout l'inverse de la réaction où l'on réagit aux circonstances extérieures et où le comportement et les émotions dépendent de ce qui se passe autour de soi. Être dans la réaction, c'est aussi attribuer son sort entièrement aux circonstances extérieures. Alors si vous l'attachez de vous concentrer sur ce qui dépend de vous, eh bien vous mettez toutes les chances de votre côté pour vous créer une vie qui vous ressemble. On cherche donc ici à vous guider vers une vie qui vous ressemble. Florian et Thomas attendent vos appels au 3921 et c'est Philippe Chartier qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 739-21 en commençant votre texto par le mot « nuit » écrit en majuscule. Vous pouvez également nous joindre par mail à libreantenne, tout attaché en minuscule, @europe1.fr ou sur la page Facebook Sophie Peters. Sentez-vous libre de venir vous exprimer au 3921. Bonsoir Séverine.
Sophie, bonsoir. Donc je voulais avant toute chose vous remercier de m'accueillir ce soir sur l'antenne. On s'est parlé à plusieurs reprises et à chaque fois que je vous ai contacté, les choses se sont avancées pour moi.
Bon, maintenant c'est une bonne nouvelle.
C'est pour ça que je voulais vous contacter ce soir pour quelque chose d'important qui va se passer vendredi. Je vais passer un entretien pour un changement de poste.
Oui.
Donc c'est un changement de, on va dire un petit peu de, pas tout à fait de branche, mais de secteur, on va dire.
Oui.
Je travaille dans le domaine de la santé. Je travaille en tant que, je fais du contrôle qualité de données médicales.
Oui.
Et là, je me suis renseignée au fur et à mesure de la fin de l'année sur des métiers qui étaient disponibles, enfin, qui étaient exercés à l'hôpital.
Mmh.
Et je me suis rendue compte qu'il y avait un poste d'assistante de prévention qui pourrait coller parfaitement à ma formation initiale et aussi aux expériences que j'ai acquises au cours des 3 dernières années, puisque ça fait 3 ans que j'occupe le poste actuel. Et tout s'est un peu précipité ces dernières semaines et je passe l'entretien vendredi après-midi. Donc j'ai confiance en moi, je sais à peu près ce que je dois dire et ce que je dois faire, défendre ma candidature, mais ce qui me fait le plus peur, c'est surtout les personnes qui vont candidater aussi de l'autre côté. Je ne serai pas la seule. Voilà, donc je voudrais avoir un petit peu des conseils, savoir comment je peux faire, parce que j'y vais en mode je suis combative, je peux y arriver, il n'y a pas de raison.
Oui.
Mais j'avoue que malgré tout, il y a des choses que je ne peux pas maîtriser, que je ne peux pas contrôler. C'est
absolument
ça qui me fait peur.
Oui, absolument. Mais du coup, en étant dans cette optique-là, vous risquez du coup peut-être, d'en faire trop. Donc ne faites pas attention au fait, parce que ça, c'est la situation qui est comme ça. Bien sûr qu'il y aura d'autres candidats sur le poste, mais sinon, vous vous battez contre d'abord des personnes imaginaires, et c'est toujours un peu à son désavantage quand on fait ça. On se dit, si l'autre était meilleur que moi, et on perd ses moyens. Et on a tendance à vouloir en faire trop ou en faire plus, un peu comme si on se battait contre des fantômes. Alors que si vous êtes très déterminé dans le fait que ce poste-là est bien pour vous, vous correspond bien, que c'est plutôt même l'inverse, que vous ne voyez pas pourquoi quelqu'un d'autre l'aurait. Alors évidemment que on ne maîtrise pas tout. Mais vous voyez, cette certitude que non, c'est vraiment là où vous devez être, ça va en tout cas mettre toutes les chances de votre côté dans le moment. Alors, je ne dis pas, ce n'est pas magique, ça ne veut pas dire qu'évidemment, vous allez l'avoir. Mais ça vous évite d'avoir une déperdition d'énergie liée à l'angoisse de se dire s'il y a quelqu'un qui fait mieux que moi, qui est choisi. Par contre, ce que vous pouvez demander lors de l'entretien, à la fin, souvent, ils vous disent que vous avez des questions. Et vous pouvez vous demander s'il y a beaucoup de personnes qui ont candidaté et si voilà, il y a beaucoup de concurrence sur ce poste. Vous voyez ?
Alors, je sais qu'il y en a déjà deux.
Ah, ok. Ouais.
Parce que, en fait, je vais vous raconter l'histoire.
Ouais, d'accord.
C'est que j'ai trouvé une candidature spontanée en octobre. Mmh. Et j'ai été reçue par la DRH au mois de décembre. Et à l'entretien avec elle, tout s'est bien passé. Il n'y avait eu aucun problème. Elle était à l'aise. Enfin, j'étais à l'aise. J'ai pu vraiment défendre tout ce que j'avais à dire sans aucun problème. J'ai parlé de mes expériences passées, même de certains travaux professionnels que j'avais fait pendant mon master de santé publique. Et j'ai senti vraiment que le courant passait bien. Et ça s'est confirmé 2-3 jours après parce que je l'ai rencontrée dans des couloirs. Je suis allée la voir, elle m'a reconnue tout de suite. Alors que moi, j'étais un petit peu, je l'ai vue de loin, je ne l'ai pas reconnue tout de suite. Mmh. Mais j'ai senti vraiment en sortant d'entretien que ça s'était bien passé. Et ensuite, j'ai rencontré donc beaucoup plus récemment le responsable de la qualité, enfin de la gestion des risques professionnels. Et l'entretien, moi, j'ai eu un bon ressenti aussi. Et il a dit une phrase qui m'a un petit peu... J'étais un petit peu étonnée, mais je me suis dit, bon, c'est quand même bon signe. Il m'a dit, quand vous êtes rentrée, je me suis dit, c'est elle.
Ah oui, bon.
Alors, je me suis posé la question. Je me suis dit, qu'est-ce que ça... Enfin, sans lui poser à lui, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire? Et il m'a dit, moi, j'aimerais beaucoup travailler avec vous. Mmh. Bon, enfin, j'ai compris ça. On m'a posé la question autour de moi. J'ai dit, mais moi, c'est comme ça que je l'ai compris. C'est un peu, par exemple, un coup de foudre professionnel.
Oui,
il a vu mon CV, il a vu ma lettre. Bon, je l'ai retravaillé depuis. Et il m'a dit que lui, il voulait que travailler avec moi. Donc, je me dis qu'il n'y a pas de raison, mais peut-être que je m'auto-censure en me disant oui, mais il y a toujours des personnes autour. Je sais qu'il cherchait aussi un poste de soignant parce qu'il veut, réduire un peu le nombre de personnes sur les postes parce que là, pour l'instant, il n'y en a qu'un qui est disponible. Mm-hmm. Il risque d'en avoir peut-être un de plus dans le futur, mais je ne sais pas quand. Ce qui se passe, j'ai peur de m'auto-censurer parce que j'y tiens tellement. C'est aussi dans l'optique, ça fait partie d'un changement radical en fait de ma vie suite au passage à l'antenne avec vous en décembre aussi concernant un autre sujet plutôt sentimental. Comme pour faire référence à l'introduction que vous avez donnée, je suis plutôt en phase de réaction.
De réaction ou d'action ? Non, d'action plutôt que de réaction.
D'action.
Hein, absolument.
Oui.
Ouais. L'action, c'est ce qui vient de.
Oui,
l'action, c'est ce qui vient de l'intérieur de soi. La réaction, c'est ce qui vient de l'extérieur de soi. Hein. On réagit à des événements extérieurs en mode action. Alors, mais justement, je voulais revenir sur un point. Ce que vous dites, j'ai peur de m'auto-censurer. Qu'est-ce que vous entendez par auto-censurer ? Vous avez peur de mal parler de vous ou de ne pas en dire assez ? Enfin. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça ?
Non, c'est ça, je pense pas. C'est plus vraiment la peur de qu'il y ait d'autres personnes, peut-être, parce qu'il voulait. Je sais qu'on m'a dit qu'il voulait un poste de soignant, et moi, je suis pas soignante à la base, parce que les postes justement de préventeurs dans les hôpitaux, c'est justement des personnes qui ont des entretiens avec des cadres de santé pour justement faire une cotation des risques professionnels. Mm-hmm. Et c'est vrai que c'est comme ça que je le vois, on a tendance à plutôt bien se comprendre quand on fait la même profession. Donc ça ne veut pas dire que la porte est complètement fermée, c'est juste une angoisse liée au fait que peut-être il y a des candidatures qui seront meilleures que la mienne à côté.
C'est-à-dire qui ont un profil plus complet que le vôtre, c'est ça quand vous dites ?
Peut-être, oui, un peu dans ce sens-là.
C'est ça quand vous parlez d'autocensure, c'est par rapport à vos compétences ?
Oui, et puis après, je pense que j'en ferai pas trop parce que chaque fois j'ai défendu ma candidature pour des postes, je suis arrivée juste, même si j'ai un parcours assez atypique, je suis toujours arrivée à rassembler les pièces du puzzle tout ensemble
et
à en
ça
faire quelque chose d'harmonieux.
Oui. Ce qui est le point le plus important dans une candidature, c'est de raconter une histoire qui tient debout. Après, quand elle est claire pour soi, elle est claire pour l'autre. Ouais.
Oui, exactement. C'est pour ça. Donc, je suis assez confiante. C'est juste que la peur de qu'il y ait trop, qu'il y ait beaucoup de... Je pense pas qu'il y ait tant de personnes que ça autour, mais c'est juste me dire qu'est-ce qui va se passer à côté. Je sais que je ne serai pas la seule à candidater, c'est un peu les règles du jeu aussi, tout le monde le sait. Mais j'étais tellement à l'avoir parce qu'il y a un peu une lassitude au niveau du travail que je fais actuellement, parce que ça fait 3 ans que je suis sur ce poste-là, parce que ça, là, ça me permettrait d'ouvrir de nouvelles perspectives. Et c'est vraiment aussi dans la lignée d'un changement total de ce que j'ai envie de faire de ma vie.
Mais enfin, on vous entend et on vous sent très motivée, très déterminée. Donc, c'est ça le point le plus positif. Après, le fait qu'il y ait d'autres candidats, comment dire, ça c'est comme vous dites, c'est un point que vous pouvez pas maîtriser. C'est comme si, je sais pas, des sportifs aux Jeux Olympiques, il y a plein de candidats en compétition, lequel va remporter la médaille. Bon, c'est que le meilleur gagne. Donc exactement, j'ai envie de vous dire que le meilleur gagne. C'est ce qui va se passer. Mais le meilleur, qu'est-ce que ça veut dire dans une embauche? C'est aussi un feeling, c'est aussi un contact. Et là, ce que vous dites, c'est que vous avez déjà toutes les cartes en main et les chances de votre côté, puisque vous avez déjà rencontré la RH, que vous avez déjà avancé des pions, et que, a priori, tout est favorable.
Oui, puis j'ai des compétences qui sont transférables aussi. Après, il y a un DU qui se fait à la fac, mais je ne l'ai pas, mais je peux quand même apprendre des choses sur le terrain. Et même s'il faut faire la formation, je suis prête à la faire. Parce que j'ai toujours été ouverte à apprendre de nouvelles choses et à progresser. Et c'est juste peut-être que là, c'est une angoisse 48 heures avant de me dire, bon, l'échéance approche, du coup, c'est essentiellement, je pense que ce qui me fait surtout peur, j'ai peur de... Ça va au-delà, en fait, peut-être des personnes, c'est que j'ai peur d'être déçue de ne pas arriver à l'avoir. C'est ça surtout, parce que pour moi, j'y tiens vraiment beaucoup, beaucoup.
Oui, mais Séverine, le fait d'anticiper à l'avance le fait que vous pourriez ne pas l'avoir, encore une fois, ça risque de vous faire perdre des moyens. Et ça, ce sera après. Ce qui compte, c'est le moment présent. Vous ne pouvez pas maîtriser, et personne ne peut maîtriser son futur. Donc, quand on est un cran trop loin... Du coup, bah forcément, on crée de l'angoisse. Et l'angoisse, elle vient du fait que, justement, c'est des éléments qu'on ne peut pas maîtriser. Et en général, plus on se focalise dessus, et c'est comme les crises d'angoisse ou les crises de panique, où c'est toujours la peur d'en avoir une qui est à l'œuvre, bah, la peur, elle est d'autant plus importante qu'elle est sans objet. Enfin, où l'objet est loin. Donc, la frustration, il sera toujours temps. Hein, c'est ça un peu la sagesse ancienne. Enfin, la sagesse, c'est vraiment de laisser ce temps au temps. Donc, il sera toujours temps de prendre la mesure de votre déception, si déception il doit avoir. Mais vous ne protégez pas. Enfin, ça ne vous permet pas que la déception soit moins forte si vous l'envisagez d'ores et déjà. Vous pouvez la...
Oui, oui.
Voilà, donc c'est... Attention, parce que voilà, faudrait pas que ça vous sabote, quoi.
Non, mais c'est ça que je veux pas, c'est ça que je veux éviter. Après, oui, je suis consciente que y a des choses qu'on peut pas maîtriser, en l'occurrence le nombre de personnes qui vont candidater, comment vont se passer les entretiens pour les autres personnes. Maintenant, je sais que de mon côté, je peux agir justement pour donner le meilleur de moi-même, et c'est ce que j'ai envie de faire. Et l'avantage que j'ai aussi, c'est que je sais pas pour les autres, mais après, oui, moi j'ai rencontré les deux personnes.
Bien sûr.
Elles ne le savent pas. Entre elles, ne savent pas que j'ai rencontré l'une et l'autre. Mais dans tous les cas, et en même temps, c'est bizarre parce que j'ai mon intuition j'écoute tout le temps l'émission, et vous dites souvent qu'il faut suivre son intuition. Mmh. Et j'ai une petite voix qui me dit que ça va le faire.
Bon, bah alors c'est ça qui compte. La petite voix, c'est aussi la confiance. Parce que quand je vous écoute, je me dis que le sujet principal, c'est la confiance. Alors, pas de façon banale, enfin, la confiance en soi, mais c'est plutôt une confiance dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Vous voyez, c'est une confiance élargie. Il y a la confiance qu'on a en soi, vous l'avez, c'est-à-dire la confiance de vos capacités, que vous êtes pour le poste. Et puis, il y a une autre confiance, on va dire un peu plus grande, qui englobe celle de nos capacités, de nos compétences, qui est la confiance dans le fait que quelque chose est juste et qu'on peut faire confiance à des éléments qu'on ne maîtrise pas. Mais c'est comme ça. Vous voyez, c'est la confiance dans la vie, c'est la confiance dans les autres, c'est la confiance que les choses sont justes, que les choses arrivent quand elles doivent arriver. C'est ça, cette forme de sagesse dont je vous parlais à l'instant.
Oui,
le vrai mot, c'est la confiance. Et la confiance, c'est se mettre dans le présent. Donc, ça veut dire que là, d'ici vendredi après-midi, vous allez vraiment rentrer en vous-même, peut-être faire des exercices de respiration ventrale, peut-être ça vous connaissez, pour baisser les niveaux de stress. Hein.
Oui, voilà, ouais, j'ai déjà fait la sophro.
De la sophro, bon, bah, très
on
bien.
On l'a déjà fait, oui.
D'accord, donc mettez-vous dans des petits exercices comme ça, de respiration, ralentir la respiration, vous connecter à votre corps, un peu, vous voyez, en mode de méditation. Et ça, ça va vraiment baisser, ça va vous donner beaucoup d'énergie en baissant le niveau de stress, en fait.
D'accord. Après, moi, j'ai potassé aussi, j'ai revu les postes, ce qui était transférable, ce qui ne l'était pas, pour justement continuer à la défendre, parce que des fois, pendant les entretiens, enfin, j'aime bien que ce soit quand même bien structuré. Et j'ai fait une liste de questions aussi à la fin, justement pour savoir comment ça risque de se passer si jamais j'avais le poste, savoir comment je vais travailler, parce que je pense qu'il faut toujours, de ce que j'ai compris, il faut toujours poser des questions à la fin, ça prouve
ouais,
que ça
pas trop, hein. Ouais, pas trop, Séverine, parce que si vous êtes déjà à la fin de l'entretien, dire comment ça va se passer, etc. Oui, mais c'est peut-être déjà un peu trop, c'est-à-dire comment ça va se passer, on l'aborde une fois qu'on a eu le poste. Donc, des questions peut-être plus d'intérêt général sur l'organisation, sur le métier, mais pas trop pratico-pratique, en tout cas pas trop concrète.
Oui, d'accord.
Et oui, c'est important. Okay. Attention au fait, vous savez, quand on est, j'ai envie de dire, très au taquet, on a tendance à aller trop vite ou aller tout droit, à être trop mobilisé. Et la personne le sent et on manque de j'allais dire une forme de souplesse ou de tranquillité, de présence. Hein, parce que le stress fait qu'on monte le niveau d'énergie. Donc, comme on veut y arriver, le rythme va plus vite.
D'accord, mais je vais regarder.
C'est plutôt de tenir la monture, hein, qu'elle ne s'emballe pas, quoi.
Exactement, c'est ça. Ouais. C'est ça. Je suis assez sereine par rapport à tout. C'est juste que j'ai un peu des idées des fois qui me disent, c'est qui font que ça me perturbe en ce moment. Voilà, c'est tout. Mais j'imagine que ça va quand même.
Séverine, vous pouvez vous dire que évidemment vous serez très déçue si vous l'avez pas. C'est une éventualité, mais. Voilà, vous le savez, évidemment qu'on est déçu quand on candidate à quelque chose qu'on l'a pas ou qu'on est forcément déçu, mais vous encombrez de ça, c'est juste quelque chose que vous savez qui est là. Mais ne rentrez pas dans cette émotion-là, parce que là, c'est l'émotion qui est en train de monter là-dessus. C'est-à-dire donc, la peur de ne pas l'avoir.
Et oui, j'essaie justement de la chasser, enfin du moins de l'écouter pour pas faire en sorte que de mieux gérer tout ça, mais c'est un peu le curseur, c'est un peu 40-60.
Oui, peut-être d'imaginer aussi, vous savez, un peu le plan B, c'est-à-dire de se dire, ok, et si je l'avais pas, qu'est-ce qui se passerait? Quel pourrait être le positif de ne pas l'avoir? Parce qu'il y a toujours un versant un peu négatif et positif, et vous jouez pas votre vie, vous jouez quelque chose de très important, mais il faudrait baisser un peu l'enjeu. C'est ça qui serait aidant pour vous.
D'accord, ben je vais voir un petit peu, je vais réfléchir assez justement à cette question sur si jamais ça pouvait pas aboutir, qu'est-ce qui pourrait être positif, parce que ça, c'est vrai que je l'ai pas abordé, j'ai abordé plein de choses, mais pas ce point-là. Et après, je vais voir. J'espère justement que le 8, c'est la journée mondiale de la femme. Donc, j'espère que ça me porte la chance.
Oui, absolument. Mais c'est vrai ce que je disais à Patrick hier soir aussi sur l'antenne, qui était un peu bloqué parce qu'il avait un désir très fort. Et je vous retrouve un peu aussi dans votre témoignage. C'est une histoire d'enjeu. C'est-à-dire, plus on met l'enjeu très, très haut et on y met tout de soi dans l'enjeu, alors que ce soit une rencontre amoureuse, un rendez-vous professionnel, on perd ses moyens. Parce qu'on ne peut pas mettre tout de soi dans un enjeu. Vous êtes beaucoup plus vaste, Séverine, et votre vie est faite de plein d'autres choses. Et elle ne se réduit pas, ou elle n'est pas déterminée. Voilà, quand ça devient un peu une question, alors je schématise, hein, je pousse le curseur un peu loin, mais vie ou mort, bah à ce moment-là, c'est trop angoissant. C'est trop angoissant.
Oui, je vois. Et c'est en même temps, c'est parce que je reconnais que ce qui fait que je pourrais être déçue aussi, c'est que j'ai un CDI, je travaille, j'ai un salaire tous les mois, mais c'est parce que j'ai plus envie de continuer sur le poste sur lequel je suis actuellement. C'est pour ça que ça m'angoisse.
Mais vous pouvez vous dire, de toute façon, si c'est pas ce poste-là que j'ai, je suis sûre de partir, et quoi qu'il arrive, je suis tellement motivée, déterminée, maligne, je sais me débrouiller. Si c'est pas celui-là, ce sera un autre. Et ça, oui, ça va être très aidant.
Oui, parce qu'en plus, c'est vous avez donné des adjectifs qui me caractérisent pas mal, dans la mesure où je suis quelqu'un d'assez dynamique et de déterminée. Et que je mets les moyens quand j'ai envie d'avoir quelque chose. En général, je mets les moyens.
Donc, je donne le meilleur de moi-même. Mais si je ne l'ai pas de toute façon, je suis déterminée à ce que ma vie change sur ce plan-là. Donc, j'en mettrai les moyens. Et si ce n'est pas ce poste-là, ce sera un autre. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, je bougerai. Et ça, ça va être très aidant pour vous.
Oui, oui, ça, c'est voilà, ça là aussi, c'est encore quelque chose que j'ai. Pour l'instant, j'ai fait chaque chose, on va dire, un pas après l'autre, justement, en se candidater sur ce poste-là. Puis après, je me suis dit, bon, ben, je verrai par la suite ce qu'il en est. Mmh. Si ça marche, si bien, ça ne marche pas, il faudra justement que je me repositionne sur quelque chose d'autre.
Voilà. Voilà.
Voilà, et c'est, pour
c'est, ça. C'est ça un peu la façon de raisonner en mode plan B, se dire qu'on ne joue pas sa vie. Il y a une direction vers laquelle on veut aller, et cette direction, on ne la bougera pas. Voilà. La direction, vous la connaissez. Quittez le poste actuel et allez vers autre chose dont vous savez à peu près les contours. Il y a celui-là qui se présente, c'est celui-là que vous tentez d'avoir. Vous l'avez très bien. Vous ne l'avez pas, j'ai presque envie de vous dire, ce n'est pas grave. Parce qu'il y en aura un autre. Et vous êtes sûr de le prendre. Donc, et c'est ça qui vous permet d'avancer.
Oui, oui. Voilà. Tout à fait. Mmh. C'est ça. Mmh. C'est ça. Bon, mais écoutez, super. Merci beaucoup.
Je vous en prie, Séverine, mais surtout, on pensera à vous vendredi après-midi.
Oui.
Bon entretien.
Merci beaucoup. Hein, c'est à 16h.
Vous nous donnerez des nouvelles. Voilà.
Oui, bien sûr,
voilà.
Je vous donnerai des nouvelles certainement par mail ou par Messenger pour
d'accord.
vous dire ce qu'il en est quand
d'accord.
j'aurai la réponse. Merci beaucoup, je vous
d'accord.
embrasse.
Moi aussi, bonne nuit.
Merci.
Au revoir. Au revoir, Séverine.
Pour joindre Sophie Peters, appelez le 3921.
50 centimes la minute.
Bonsoir Jeanne.
Oui, bonsoir Sophie.
Bienvenue.
Bienvenue à vous aussi, je suis contente de vous avoir. Je voulais vous poser là une question que je n'arrive pas bien à décider
oui.
moi-même. Je voulais vous parler de mon fils, d'un de ses fils, puisque j'en
oui.
ai deux, qui a 55 ans bientôt, qui a déjà fait à 50 ans ce qu'on avait qualifié de burn-out mm-hmm. à l'époque, parce qu'il a laissé tomber suite à une discussion avec le directeur de l'école où il travaillait. Bon, donc il a arrêté son métier là et il a fait une autre entreprise qui fonctionne bien. Il
oui.
est courageux. Enfin bon, il travaille même avec ses enfants. Il fait travailler ses enfants un peu mmh. avec lui. Il a trois garçons et une fille.
Mmh.
Donc et là, il nous a fait un coup là la semaine dernière. Depuis pas mal de temps, depuis quelques mois, il dort très mal, il n'arrive pas à s'endormir, et bon, les Stilnox ou autre chose,
oui.
les somnifères comme ça ne lui font mmh. pas grand-chose. Donc, en plus, il doit se faire peut-être opérer de la hanche, bon, ça le tracasse un petit peu. Enfin, à part ça, il n'a pas d'autres problèmes familiaux, pas tout au moins pas qu'on sache. Et donc, ce week-end, sa fille lui avait acheté, lui a offert pour Noël, un voyage de 3 jours, là, d'un petit week-end de 3 jours en Portugal, à Lisbonne.
Mm-hmm.
Comme, bon, alors c'était ce cadeau. Depuis Noël, il pouvait réfléchir si ça lui plaisait ou pas, il aurait pu changer peut-être. Bon, il n'a rien fait, bien que j'ai cru comprendre que ce n'était pas cette destination-là qu'il aurait voulu. Il aurait voulu plutôt une thalasso ou un truc comme ça, mais enfin bon. Ils s'en sont restés là. Et le matin même, en partant, ils avaient loué une voiture pour les 3 jours. Ils avaient les valises faites et tout. Au moment de partir, elle a refusé de partir.
Mmh.
Alors, est-ce que ça, c'est dans le cadre d'un... Je ne pense pas que ce soit le travail, puisque ça a l'air de fonctionner bien.
Oui,
Mais
il a dit quoi ? Enfin, quand dit
il a
Alors,
refusé...
il a oui.
dit... Moi, il m'a dit parce qu'il m'a appelé le matin et je lui ai
oui.
dit t'es où ? Ben non, je suis à la maison, on n'est pas parti. Alors, je lui ai dit pourquoi t'as
oui.
peur de l'avion ? Il me dit t'as
oui.
déjà pris l'avion. Non, il me dit c'est pas ça. C'est la peur de cette, vous voyez, de cette vie de foule. Quoi. Je crois qu'il a une peur. Il aime bien, vous voyez, il a décidé d'habiter en petit village parce qu'il ne veut pas la ville. Il a été élevé en ville puisque moi j'habite en ville.
Oui.
Mais il n'aime pas la ville. Donc, alors, c'est la seule rétroflexion qu'il a faite.
Il a dit à cause de cette vie de fou, c'est ça, c'était ça.
C'est un peu ça qu'il veut dire quoi. Il est peut-être un peu claustrophobe, un peu. Je sais
en fait,
pas,
ça l'angoissait dans une grande ville comme Lisbonne, vous pensez ?
C'est possible que ce soit l'angoisse, parce que maintenant il a aussi le problème quand il prend la voiture.
Oui.
Pourtant, il conduit depuis toujours. Il prend la voiture, il s'arrête, il veut plus conduire. Il a une peur quelque part.
D'accord. Donc en fait, il ne fait pas des longues distances parce qu'il n'est pas bien quand il conduit en voiture.
Oui, mais là, sûrement, ça doit être ça. Mmh. Et là, il n'était pas question de voiture, c'était la voiture pour aller dans l'Isoane, peut-être.
Mais vous avez discuté un peu plus longuement avec lui en lui demandant pourquoi il n'a pas effectivement, comme vous dites, changé pour une thalasso ou autre chose, son billet.
Non, ça, je n'ai pas. C'était très récent, puis depuis, je ne l'ai pas vu, là.
Ah, vous ne l'avez pas vu depuis.
Ils sont venus dimanche, mais il y a apparemment. Moi, je n'ai pas parlé trop avec lui, j'ai parlé plus avec ma belle-fille, puisqu'il est allé se coucher.
Et qu'est-ce qu'elle en pense, votre belle-fille, de ce qui s'est passé? C'est quoi son analyse?
Elle ne sait pas trop. Et puis, il refuse toutes les autres invitations, vous voyez, tout ce qu'il peut avoir, les amis, tout ça, tout ce qui était leur vie. Il a vu une vie avec beaucoup d'amis, vous voyez, dans un petit village. On dit bien,
Il s'isole. Oui, il s'isole.
Oui, voilà, il s'isole. Là, il s'isole.
C'est pas très bon signe, ça, effectivement, l'isolement.
Bah oui, mais alors moi,
le refus. Vous savez, en fait, ce qui est toujours inquiétant, enfin, sur des signes de stress chez les individus, c'est tout ce qui est un changement par rapport à un comportement antérieur. Donc, s'il était social et qu'il s'isole, s'il était bavard et qu'il se tait, s'il voyageait et qu'il ne voyage plus, vous voyez, c'est ce genre de mécanisme qui interroge. Et là, vous avez l'air de dire qu'il y a beaucoup de changements. Bon, Jeanne, on s'interrompt quelques minutes pour les informations on continue à échanger juste après, d'accord ? À tout de suite.
Merci
à tout de suite,
Jeanne. Merci.
Il est minuit et on retrouve tout de suite Isabelle Millet pour les informations. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Sophie, bonsoir à tous. Et vous l'avez vécu en direct ce soir sur Europe 1, ce séisme. Paris éliminé de la Ligue des champions de football, battu 3-1 par Manchester United au Parc des Princes dans ce match retour. Excusez-nous, c'est le seul mot que je peux trouver pour le moment. C'est ce qu'a déclaré le capitaine parisien Thiago Silva à l'issue de cette rencontre. Énormément de déception donc ce soir pour le PSG. Julien Froment, c'est le moins que l'on puisse dire.
Et oui, l'improbable s'est produit. Le Paris Saint-Germain éliminé de la Ligue des Champions malgré sa victoire 2-0 à l'aller. Manchester United privé de 10 joueurs cadres est parvenu à inverser la tendance. Succès 3-1. Tout s'est passé notamment en première période sur deux erreurs individuelles côté parisien. Une de Thilo Kehrer sur le 1-0. Une autre de Gianluigi Buffon sur le 2-1. Et puis ce moment assez improbable, à la 90e minute de jeu, un pénalty sifflé en faveur des Anglais après une faute de main de Presnel Kimpembe signalée grâce à l'assistance vidéo. Marcus Rashford n'a pas tremblé et envoie Manchester United en quart de finale de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain, qui a connu la remontada il y a deux saisons, revit à nouveau l'enfer en 8e de finale.
Merci beaucoup Julien Froment qui vous a fait vivre donc ce match en direct sur Europe 1 aux côtés de Cyril de la Morinerie. Dans l'autre rencontre de la soirée, il a fallu les prolongations pour départager Porto et l'AS Rome. Finalement, c'est Porto qui se qualifie pour les quarts de finale. Et puis en Coupe de France, Nantes a décroché ce soir le dernier ticket pour les demi-finales en battant Vitré 2-0. Les Canaries affronteront le PSG au Parc des Princes, tandis que dans l'autre demi-finale, Lyon accueillera Rennes. Ce sera les 2 et 3 avril. La haut commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies s'attire les foudres du Premier ministre, l'ONU réclame à la France une enquête approfondie sur les violences policières qui émaillent la crise des gilets jaunes. Réplique très sèche d'Édouard Philippe ce soir. Il faudra expliquer à Madame le Haut-Commissaire l'ensemble des faits d'extrême violence, notamment contre les forces de l'ordre ou les biens publics. On n'a pas attendu l'ONU, dit-il, pour faire la lumière sur ces faits dès lors qu'il y a des plaintes. La sécurité des personnels pénitentiaires en question au lendemain de l'agression de deux surveillants par un détenu radicalisé à la prison de Condé-sur-Sarthe, agression qui a provoqué un mouvement de colère. Des syndicats, ils l'ont fait savoir aujourd'hui en bloquant plusieurs prisons et ils ont l'intention de recommencer demain. Édouard Philippe reconnaît une défaillance du système quant à l'état de santé des deux gardiens blessés. Le plus grièvement atteint a été opéré de la main et il attend de savoir s'il pourra retrouver l'usage complet car ses tendons ont été touchés. L'autre devrait pouvoir sortir rapidement de l'hôpital mais il est psychologiquement très affecté. Une rose blanche à la main, plus de 2000 personnes ont participé à une marche silencieuse ce soir à Grenoble à la mémoire des deux jeunes morts le week-end dernier lors d'une course-poursuite avec la police. Un drame qui a été à l'origine de plusieurs nuits de violence et d'ailleurs de nouveaux incidents ont éclaté ce soir après cette marche. Plusieurs voitures ont été retournées et incendiées à Grenoble et des pierres et des cocktails Molotov ont été lancés depuis les toits des immeubles sur les forces de l'ordre. Achetez vos billets de train dans un bureau de tabac. Eh bien, ce sera sans doute bientôt possible. En tout cas, une première série de tests va être lancée. Pour le président de la Confédération des buralistes, il ne s'agit absolument pas de concurrencer la SNCF, mais de compléter l'offre du groupe public, la SNCF, qui pour l'instant n'a pas réagi. Les Français préfèrent l'heure d'été à l'heure d'hiver. Ils sont 2 millions à avoir répondu à la grande consultation citoyenne lancée par l'Assemblée. Consultation sans valeur toutefois, puisque ces résultats seront transmis à la Commission européenne. La fin du changement n'interviendra pas avant 2021 et quoi qu'il arrive, chaque pays aura la possibilité de choisir. Et puis une centaine de pompiers luttent actuellement contre un violent incendie qui s'est déclaré près du village d'Arlebosque. C'est en Ardèche. Incendie attisé par les rafales de vent et provoqué probablement par la rupture d'une ligne électrique. L'Ardèche, comme la Drôme, reste en vigilance jaune, contrairement aux départements voisins de la Loire, du Rhône et de l'Isère qui sont placés en vigilance orange en raison des vents violents. La météo, justement, avec vous Valérie Darmon, et ces vents qui soufflent donc très fort en Rhône-Alpes. Valérie, est-ce que ça va un peu se calmer demain ?
Et oui, on a toujours plusieurs départements en vigilance orange, vent violent dans les Pyrénées et en Rhône-Alpes. Et demain matin, nous allons retrouver notre perturbation aux frontières de l'Est, avec de la neige entre le Jura et les Alpes, au-dessus de 1200 mètres, 1006 dans les Alpes du Sud, de la pluie sur cette même façade Est, entre les Vosges et les Alpes-Maritimes, et le soleil qui reviendra en force, en revanche, au-dessus des Pyrénées et de la région Midi-Pyrénées à la basse vallée du Rhône. Partout ailleurs, on va passer en ciel de traîne, assez actif, en traverse, passage nuageux, voire des orages d'ailleurs et quelques vagues éclaircies sur la façade ouest. Et puis dans l'après-midi, le soleil qui va gagner du terrain sur l'Aquitaine, le Languedoc, le Roussillon et Toupaca. Les minimales, elles vont rester toujours très douces pour la saison, mais les maximales vont baisser sensiblement, toujours au-dessus des moyennes de saison évidemment, comprises entre 11 et 20 degrés du nord au sud.
La météo, signée Valérie Darmon sur Europe 1. Et je vous souhaite une excellente nuit à l'écoute d'Europe 1, toujours en compagnie de Sophie Peters pour la Libre Antenne.
Europe 1, 22h30, 1h, la Libre Antenne, Sophie Peters.
Seul numéro pour nous joindre dans cette émission, le 39-21, pour venir vous exprimer sur ce qui vous touche ou sur ce qui vous préoccupe. Florian et Thomas sont à votre écoute ce soir au 39-21. Vous pouvez également réagir par message à ce que vous entendez à l'antenne par SMS 739-21 précédé du mot nuit, écrit en majuscule. Vous pouvez également nous joindre par mail, libreantenne tout attaché en minuscule, @europe1.fr ou par la page Facebook Sophie Peters. 39-21, nous sommes à votre écoute.
22h30, 1h, la Libre Antenne sur Europe 1. Sophie Peters.
Et on vous retrouve, Jeanne. Alors Jeanne, vous nous parliez de votre fils qui a 55 ans, qui a déjà fait il y a quelques années un burn-out, vous disiez, vers 50 ans. Il est auto-entrepreneur aujourd'hui. Oui. Mais vous dites, voilà, il devait partir à Lisbonne en week-end avec son épouse samedi matin, puis il n'est pas parti au dernier moment, en vous disant, ben, la cause, c'est cette vie de fou. Voilà, je ne veux pas de cette vie de fou.
Oui, il... je crois que c'est un petit peu ça. Quoi.
Ouais, ouais. Il est fatigué, hein, il est très fatigué.
Oui, il est très fatigué, c'est vrai. Oui, alors, donc, ils sont allés voir lundi matin en consultation le généraliste.
D'accord.
Il lui a donné du séroplex, antidépresseur et puis un quart de Valium, je crois, pour pouvoir dormir bien. Essayer de dormir. Bon, là, il va peut-être cette semaine, mais je ne sais pas si c'est le fait que ça se reproduise. Et elle lui a proposé aussi une thérapie. Alors, je ne sais pas s'il va y aller parce qu'il dit à sa femme, et je lui dis, mais ce n'est pas au psychologue que je veux parler, c'est à toi. Ah oui. Mais à elle. Mais je pense qu'il n'a rien à lui reprocher parce que je connaissais bien ma belle-fille. Elle passe une journée par semaine dormir chez moi parce qu'elle est institutrice et elle a été mutée très loin de chez elle. Donc, elle peut, comme moi, je suis au milieu. Alors, donc, on a des contacts de tout le temps, quoi, toutes les semaines.
Oui.
Contact avec elle. Et j'ai dit, écoute, il ne parle pas de suicide, il ne parle pas. Il dit non, il n'en parle pas.
Et quand il lui dit je veux parler avec toi, qu'est-ce qu'elle lui dit?
Je ne sais pas. Bah, il lui a dit oui, mais ce n'est pas ce que tu as à dire. Si ça la concerne, elle, qui lui parle à elle, oui. Mais si c'est le boulot, si c'est la famille,
c'est surtout qu'il faut qu'elle lui dise que c'est pas elle qui peut faire en sorte qu'il aille bien.
Oui, elle a compris.
Ouais, elle a compris ça.
Je lui ai dit c'est pas l'entourage qui peut aider. Et donc,
l'entourage est un soutien par sa présence, mais pas sur le plan effectivement thérapeutique. Il avait été soigné après son burn-out, il a été pris en charge.
Non, mais il a pas voulu, il a voulu s'en sortir tout seul.
Ah, mais c'est pas possible ça. C'est pas possible, Jeanne. S'il a fait un réel burn-out.
Parce que c'est tombé à l'époque où il créait son auto-entreprise, donc. Et il a beaucoup travaillé après ça, quoi.
Mais peut-être qu'il est excessivement stressé d'avoir beaucoup de choses sur les épaules. S'il est en auto-entrepreneur, ça peut être très angoissant pour lui. Et du coup, ça modifie son sommeil. S'il est tout le temps dans cette crainte de ne pas y arriver ou de ne pas boucler, je ne sais pas, les fins de mois. Ça se passe pas trop mal, mais quand on a beaucoup de travail. Quand on est comme ça, son propre patron, c'est beaucoup de pression et on s'en met en général encore plus que la pression réelle. C'est ça qui crée des burn-out, c'est quand on se met encore plus de pression qu'elle n'est en fait et qu'on a l'impression qu'on va pas y arriver. Oui. Et sans doute, il a peut-être ce sentiment par moment d'être. Un peu juste, j'en sais rien, dans ses compétences, dans sa force de travail, dans sa capacité, dans tout ce qu'il a affronté. C'est peut-être beaucoup.
Oui, ça, il s'en sort bien, mais ce qui l'a peut-être choqué beaucoup, c'est que, comme il travaille lui-même, il travaille avec ses enfants, mais lui, il travaille aussi. Donc, il a pris ça dans les restaurations des maisons, des bâtiments. Vous
voyez. D'accord.
Donc, c'est un travail physique important.
Et oui, il est sur des chantiers, ouais.
Voilà. Mmh. Et donc, l'histoire de sa hanche qui devrait être opérée, parce qu'il en souffre quand même pas mal. Mais on lui dit que c'est un peu tôt pour opérer, donc il faut qu'il patiente quand même. Et donc c'est peut-être ça aussi, c'est tout un mélange certainement. Il a quatre enfants. La fille, elle travaille.
Ça se passe bien avec les enfants ? Il a une bonne relation ?
Oui, ça se passe bien. Oh oui, très bien, il chahute avec eux, peut-être même trop. Enfin, les enfants, ils sont un petit peu comme tous maintenant. Enfin, moi, je trouve que c'est un peu vieux pour être aussi exubérant, mais enfin, c'est un peu tout foufou, quoi. Ils ont 24, 25 ans. Ils sont partis là à deux en Indonésie, là ils sont partis depuis 2 mois. Alors peut-être que ça aussi, ça lui perturbe.
Ah oui, il est plus tout seul là,
chantiers. Plus tout seul, voilà. Oui. Sur les chantiers, puis son autre fils, lui, il ne va pas avec lui, mais il est encore à la fac. Et puis sa fille aînée, elle travaille aussi, elle est assistante sociale, donc elle travaille, elle se débrouille très bien. Donc il n'y a pas de souci à se faire pour elle. Puis les deux garçons, ils sont limites, ils travaillent avec lui, ils n'ont pas un moitié très sûr, pas de sûr du tout même. Et là, ils sont partis, ils aiment voyager maintenant. Ils sont allés en Nouvelle-Zélande, ils sont au Japon. Bon, c'est bien, mais ils n'ont pas, si vous voulez, ils n'ont pas d'arrière, quoi, de l'acquis.
Mais ça c'est souvent. Oui, aujourd'hui, il y a plus d'aventuriers en tout cas, ou plus d'oiseaux sur la branche. Ouais, c'est pas la même façon d'envisager la vie d'adulte. Il vous écoute, votre fils ? Il vous écoute ?
Oui.
Et vous pourriez lui parler justement de prendre soin de lui, de sa santé, que d'aller, si le médecin généraliste lui a dit d'aller voir un psy, que c'est important pour lui, qu'il retrouve ses ressources, c'est-à-dire plutôt lui en parler sur le mode, pas de la maladie, mais sur le mode de... il a besoin d'être au mieux de sa forme pour assurer son travail, pour assurer sa vie. Et donc, il a besoin d'y aller pour que... il ait un stress moins important, qu'il puisse plus faire face à tout ce qui lui arrive.
Bah oui, parce que ce qui m'a choqué, c'est le fait que de dire à la dernière minute... C'est pas sympa pour sa fille qui avait payé le billet.
Mais oui.
Donc, c'est qu'il n'a pas pu, lui, passer au-delà de sa peur.
Oui. Et qu'il n'a pas voulu la reconnaître, surtout, manifestement.
Bah non, il n'a pas bien déterminé. Hein.
Et il s'est excusé auprès d'elle, vous savez, non ?
Je ne sais pas trop.
Il partait seul.
Il partait juste tous les deux. Elle leur avait payé un petit billet.
Avec sa fille ou avec son épouse ?
Non, pas avec la fille. Non, non, avec sa femme, donc, avec son épouse.
Donc, en fait, la fille avait offert le billet à ses parents.
Oui, à ses parents, voilà. C'était un cadeau à Noël.
Oh là
donc,
là.
J'avais vu que le moment où il lui a offert ça, elle lui avait fait ça sous forme d'un petit jeu. Tu vois, elle avait trois voyages, soit à Copenhague, soit à Lisbonne, soit, je ne sais plus, Venise, enfin, un truc comme ça. Et donc, c'était un petit jeu, puis ils ont gagné Lisbonne. Voilà. Et
d'accord.
Comme ma belle-fille est espagnole, enfin, d'origine espagnole, bon, ça lui convient bien, ce climat-là, quoi.
Mais elle a dû être très déçue, votre belle-fille. Ça a dû être très dur pour elle.
Elle disait trop rien, mais... Alors, j'ai dit, à la limite, il ne faut pas qu'il joue comme ça, parce que ça, c'est de la manipulation. Après, si à chaque fois, bon, elle n'y est pas allée, bien sûr, mais si à chaque fois qu'il ne veut pas aller quelque part, elle doit renoncer, c'est pas bien. Il a déjà fait ça tout depuis le début de l'année, il lui fait ça.
Oui.
Quand elle vient le samedi, elle me dit le lundi, elle me dit, ben, le week-end, là, on a été invité par un tel, où on a fait des trucs sur Paris, des escape games, des choses comme ça, vous voyez. Elle aime bien, elle est très festive. Et donc, elle me dit, Didier ne veut plus venir maintenant. En riant, un jour, je lui dis, bah, écoute, hein, si tu ne veux plus venir chez moi, il faudra me prévenir. Je l'ai dit comme ça, en rigolant. Mais bon, là, elle est déçue, puis elle se dit qu'elle ne peut pas rester comme ça. Alors, déjà, elle ne peut pas abandonner son travail parce qu'elle est dans l'éducation nationale, elle ne peut pas prendre des congés comme ça.
Il a l'air de plus avoir de goût à rien, en fait. Hein.
Je crois que c'est ça.
C'est un aspect dépressif. C'est un aspect aussi. D'ailleurs, on lui a donné du séroplex, hein, c'est un antidépresseur. Mais dit un auditeur, c'est ce qu'on appelle une conduite d'évitement sur des personnalités phobiques, en fait. Alors peut-être que la suractivité peut l'avoir entraîné là. Si en plus, suite à son burn-out, il s'était pas vraiment bien soigné, c'est toujours
non.
Ça veut dire que le mécanisme qui a été mis en œuvre au moment du burn-out, le mécanisme, il est toujours présent. Il était toujours en sourdine. Donc, parce que c'est ça, quand on se soigne d'un burn-out, bon, on soigne effectivement l'aspect fatigue, épuisement psychique, mais surtout, le travail consiste à comprendre qu'est-ce que l'individu s'est raconté dans son travail, comment il a vécu la situation de travail, qui fait qu'il a décroché.
Oui.
Et donc, c'est ça le travail thérapeutique qu'on mène avec quelqu'un qui a fait un burn-out. C'est-à-dire qu'on remonte dans l'historique pour comprendre comment ça s'est enchaîné et comment, dans l'enchaînement, la personne se dit quelque chose qu'elle ne se dit pas, enfin, de façon un peu inconsciente, mais se met dans ses angoisses et se raconte une petite radio intérieure qui tourne en boucle et qui va la faire décrocher à un moment donné. Mais elle n'en a pas conscience parce que c'est comme si vous roulez, je ne sais pas, 200 à l'heure sur une autoroute, mais que vous ne vous rendez pas compte que vous roulez à 200 à l'heure. Mais vous mettez votre vie en danger. Bon, mais ça si après il s'est dit « je m'en débrouille tout seul », les mécanismes qui l'ont amené là sont toujours présents.
Ils sont toujours vivants.
Ils sont toujours vivants, absolument. Ouais. Et peut-être
déjà,
que burn-out, expliquer...
Oui.
Oui, pardon Jeanne. Ouais.
Non, je disais, le burn-out, peut-être qu'il datait déjà... Enfin, il l'a fait là, c'est 50 ans, mais il en avait déjà assez de son boulot à l'éducation nationale. Parce pourtant, il est rentré là-dedans, il était tout fougueux, tout heureux, ça lui plaisait, puisque c'est lui qui l'a choisi, il l'a vécu jusqu'à 50 ans. Là, et puis il y a eu un malentendu avec et il en a eu marre et puis il n'a pas démissionné complètement parce qu'il est encore susceptible d'être repris à l'école, mais enfin il n'ira pas.
Il est suractif il est suractif quand il travaille.
Oui.
Donc il va tout le temps au-delà de ses capacités. Il pousse trop loin.
Oui, je crois, oui.
Et sans doute
Et puis les enfants, bon, vous savez qu'il y a trois garçons, un adulte, à gérer comme ça, c'est pas évident non plus. Hein. Ils sont tous à la maison, sauf la petite qui a son appartement, mais les trois garçons sont à la maison tout le temps. Alors ils chipotent un peu entre eux, oui, des garçons, adultes comme ça, ils sont très super actifs aussi.
Elle a l'air assez solide, hein, votre belle-fille.
Heureusement.
Mais pour elle aussi, c'est pas facile. Hein.
Non, mais pour ça que je dis, à la rigueur, je soutiendrai plus ma belle-fille que mon fils.
Mais oui, elle aussi a besoin de soutien, bien sûr.
Puis elle est gentille, elle est ouverte, il n'y a pas de souci.
Mais c'est important que ce soit que ce soit vous, que ce soit elle, alors sans lui mettre trop de pression, mais d'insister vraiment et en lui disant, écoute, je suis là pour toi, mais ce qui compte pour moi, c'est que tu prennes soin de toi et que tu fasses les démarches nécessaires pour aller bien. Parce que
bah oui, parce qu'en plus, elle est dans l'éducation nationale, c'est pas toujours évident non plus.
Non, bien sûr.
Elle fait des CE1 qui sont, je dirais pas nuls, mais presque. Donc, elle a du travail aussi. Mais elle est cool, elle est très heureusement, parce que si elle commençait à...
Je l'ai jamais vue en colère. Oui, c'est ça, mais il faudrait que... Pas que elle, ça la pèse trop, en fait, hein, que ça pèse trop sur elle,
oui,
la situation.
C'est elle qui risque de déprimer aussi. Hein.
Ouais. Non, mais c'est certain qu'il est dans un syndrome dépressif qui peut être effectivement la conséquence d'un burn-out non soigné.
Voilà.
Votre analyse est bonne, Jeanne. Ouais. Mais je crois qu'il faut que, d'insister gentiment, mais insister quand même. C'est-à-dire ne pas le laisser s'enfermer dans sa situation et puis revenir quand même sur l'épisode de Lisbonne parce que ça en dit beaucoup. Comment la fille, vous savez sa réaction, la réaction de votre petite fille?
Elle n'était pas très contente, mais bon, c'est son père, elle a accepté. Ouais. Hein. Ouais. Je lui dis, qu'est-ce qu'elle a dû, Aurélie? Elle n'était pas très contente parce que la gosse, elle a pris sur son salaire.
Bien sûr.
Et donc, puis il aurait fait, non, même dans la semaine, comme me dit ma fille, ma belle-fille,
on aurait pu changer,
on proposait à quelqu'un d'autre, ou même si lui ne voulait pas y aller, Valérie, elle pouvait y aller avec une copine ou sa fille même, elle pouvait s'organiser. Oui, et là, la veille, les valises prêtes, presque à partir, quoi, dans la voiture.
Oui, c'est très violent, en fait, c'est très violent.
Donc, tellement violent.
Oui, ça signe quand même un comportement où il est mal, ça dit à quel point il est mal, en fait. Hein, parce qu'évidemment, il a
accepté, oui.
Oui, il a évidemment pas voulu faire de la peine à sa fille, mais s'il était dans l'impossibilité d'y aller, c'était donc très physique. Et quand c'est physique, à ce point-là, qu'il est arrêté, c'est qu'il devait être dans une angoisse extrême à ce moment-là.
Bah oui, c'est sûr, parce que je pense qu'il n'a pas dû oser dire non, dire ça ne me plaît pas.
C'est ça, c'est ce que je pense.
Donc, il s'est retenu pendant très longtemps, et puis au moment de partir, elle est bien obligée de le dire.
Oui. Vous voyez, ça dit aussi qu'il n'est pas du tout en contact avec ses besoins et qu'il n'ose pas écouter ses besoins. Parce que son vrai besoin, c'était de ne pas y aller. Et quelquefois, en voulant pas faire de peine, on dit non, je dis rien jusqu'au dernier moment. Et au dernier moment, ça casse. Donc, c'est un peu dommage. Donc, ce serait bien aussi, alors sans le culpabiliser, mais de revenir sur l'épisode de ce voyage avorté.
Pour qu'ils comprennent que
c'est grave de ne pas écouter ses besoins dans la vie et de ne pas oser dire ou de ne pas avoir dit. Et sans doute qu'il n'osait pas se montrer faible ou en échec par rapport à ce projet. Donc il s'est dit, c'est pas grave, je vais y aller quand même si je n'ai pas envie d'y aller. Puis il n'a pas réussi à y aller sur le moment.
Non, il n'y a pas, parce que ça, au départ, ça lui, c'était parce qu'il avait dit, moi, je n'aurais pas fait une thalasso comme ça pour dire de... Peut-être parce qu'il est plus actif, vous voyez, plus que voyage, quoi. Mais bon, ça aurait pu se dire avant. Je lui dis, c'est pas sympa pour Aurélie, parce qu'elle était déçue, la gosse, parce qu'elle se fait, pourtant elle est adorable, c'est une petite fille, super. Elle cherche toujours à offrir un cadeau pour la personne qui
elle a cherché à faire plaisir, ça.
Ouais, tout le temps, pour tout, pour une bricole, c'est pareil, elle cherche en fonction de...
Alors,
je pense que ça a dû beaucoup la choquer.
Bien sûr. Donc rien que pour ça, il a aussi une forme d'engagement à prendre, et ça, et peut-être qu'il peut l'entendre. Donc je crois qu'il faut que vous et...
Moi, je ne connais que ça dans l'histoire. Hein. Le reste de leur vie, je sais ce qu'ils font. Ils s'habillent beaucoup entre amis, tout ça. On connaît tout ce qu'ils font. Mais je ne peux pas savoir le fond de leur relation, tous les deux.
Non, mais... Et puis, c'est pas votre rôle, mais votre rôle en tant que maman... En tant que maman, c'est quand même de tirer un peu la sonnette d'alarme qu'il ne veut pas entendre. Voilà. Vous êtes dans votre rôle. Donc, vous allez insister un petit peu.
Oui, non, c'est pour ça que j'aurais voulu parler dimanche. Après, il est allé se coucher. Après, j'avais dit, on ira au restaurant si vous voulez. Oh non, on va manger à la maison, c'est plus simple.
D'accord. Vous le verrez ce week-end.
Je pense qu'ils vont revenir ce week-end parce que les garçons reviennent. Ils étaient en Indonésie depuis 2 mois.
D'accord.
Et ils doivent revenir.
Ce serait bien d'en parler ce week-end.
avec lui.
Bah, je vais essayer. Oui, d'accord. Pour ça, je ne veux pas laisser trop passer le temps, parce qu'après, on va s'habituer. Puis
oui, vous avez complètement raison. Oui. Mais Jeanne, je pense que voilà, votre analyse est juste et vous voyez juste. Donc maintenant, il faut que vous et votre belle-fille soyez vraiment insistante, parce qu'il en va de la santé de la famille au global. Hein. Il n'y a pas que lui qui est en jeu. Hein. Il faut qu'il comprenne qu'il y a lui, mais quand lui va mal, ça fait des dégâts autour. Donc, s'il ne veut pas y aller, c'est important. Hein. Ça s'appelle une famille.
On est une famille, justement, très, très unie.
Bah oui,
deux enfants, tous s'entendent tous très bien. On vit très bien en famille. On fait Noël chez un de mes fils. Et puis, parce que moi, j'ai de la place, mais enfin, un peu moins que lui. Et puis voilà, une année l'un, une année l'autre, on se fait des. On est assez unis comme famille.
Bon,
et puis moi, en plus, il faut que je déménage cette année. Ouais. Mon autre fils aussi. Alors moi, ça me perturbe un peu tout ça. J'ai plus l'âge trop de rentrer dans tout. Pourtant, j'analyse bien les choses. J'essaie de me débrouiller. Mais enfin, bon, pas tout non plus.
Bon, vous allez...
Écoutez, vous êtes gentille.
D'accord, oui. vous allez en parler avec lui et avec votre belle-fille. Et effectivement, pas le lâcher là-dessus, parce qu'il a besoin
de
le soutenir. Vous avez raison.
J'ai une belle-mère qui nous a fait marcher comme ça. Et elle était dépressive pour des raisons. Bon, avec sa famille, avec son mari. Bon, moi, ma belle-mère, vous voyez, elle est morte. Donc, c'était... On s'entendait bien avec nous, les filles, ces deux belles-filles. Et puis, bon, je connais beaucoup de choses de sa vie. Mais ma belle-mère était dépressive à l'âge de 30 ans, 35 ans. Elle prenait 4 comprimés d'aspirine le matin avant de partir au cas où j'aurais mal à la tête. Elle passait ses dimanches, on prévoyait, vous voyez, des sorties à l'époque. Peut-être que vous êtes jeune, vous n'avez pas connu ça, mais enfin, quand on était avec celui qui avait une voiture, eh ben, on en profitait, on partait faire des pique-niques, des choses comme ça, en famille, toujours. Et elle, systématiquement, le jour, elle disait oui, on y va. Le matin, elle faisait pareil. Le matin, ben non, j'y vais pas. Donc, toute la famille n'y allait pas. J'ai dit, c'est pas bien ça. Il aurait fallu lui dire, écoute, tu n'es pas bien, mais reste couché, tu prends un comprimé. Et puis à demain, nous, ça ne nous empêchait pas de sortir. Comme j'ai vécu ça, ça me revient à la tête.
Mais c'est ça.
Il fait chanter à ce point-là, parce que ça, c'est pas bien.
Mais oui, et peut-être, vous lui avez raconté, ça, ce que vous me dites là?
Ben, j'en ai reparlé à ma belle-fille, surtout.
Oui, mais ce serait bien d'en parler.
Ah non, j'ai pas eu l'occasion.
D'accord. Oui, mais
je dirais.
Oui, c'est important.
Parce qu'en plus, c'était au moment de son baptême, il était jeune, il avait pas un an, et on a reculé 3 fois le baptême. Parce que ma belle-mère ne voulait pas venir.
Mais c'est intéressant ce que vous dites, Jeanne, parce que est-ce que vous pensez que lui met en œuvre un comportement de la famille? Mais oui.
Écoutez, ma belle-fille m'a demandé, elle me dit, je ne sais pas qui lui a parlé de ça, est-ce qu'il y a quelqu'un de dépressif dans la famille?
Oui.
Alors moi, je lui ai dit, écoute, hormis ma belle-mère, mon beau-frère un petit peu, mais il a fini Alzheimer. Bon, mon mari, il est... un petit peu maniaco-dépressif, si vous voulez, mais enfin, pas sur ce plan-là. Il a ses habitudes, ses idées, il est plus réac, vous voyez, que moi, qui suis plus allée de l'avant, on n'est jamais d'accord pour ces deux choses-là. Et donc, il y a peut-être un côté comme ça aussi, hein, je sais pas.
Oui, parce que c'est intriguant, surtout que c'était au moment de son baptême à lui.
Oui.
Et vous dites que ça a été remis 3 fois.
Oui. Bah oui, les boîtes, elles étaient faites, tout était prêt.
Oui, oui.
Il a fallu décommander l'église, les invités.
Oui, on dirait qu'il porte quelque chose là, peut-être. Hein, c'est possible qu'il n'y ait pas à lui. Et que lui met en œuvre, peut-être à son insu, et de façon inconsciente, un comportement. Et on voit ça en psychogénéalogie, des choses qu'on a du mal à expliquer. Puis quand on fait des liens, on se rend compte, parce qu'on est tous reliés inconsciemment dans les familles, à plus forte raison, un nouveau-né avec le cercle familial. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Reparlez-lui de cet événement-là.
Oui.
C'est important. Oui, vraiment.
Il est au courant, parce qu'on n'a pas d'interdit dans la famille.
Non, non, c'est une légende familiale, j'imagine.
Oui,
mais un peu plus qu'une légende, peut-être... voilà, en lui disant, tu vois, ce serait même important d'aller en parler à un psy, parce qu'il y a peut-être quelque chose là à l'œuvre pour toi.
Oui, pas comme ça, ça le dégage un peu de responsabilité.
Oui, exactement, Jeanne. Mais je trouve que vous voyez tout très juste. Bon, c'est formidable. Vous allez, être, être de bons secours et de bonne présence pour votre fils et votre belle-fille. Oui, vous pouvez.
Oui, non, mais puis je m'entends bien avec elle, il n'y a pas de souci. On peut se parler. Mais bon, elle n'a pas toujours peut-être envie. Elle ne sait pas tout non plus. Elle dit oh, ben, j'aurais dû devoir venir parce que depuis le temps qu'il ne voulait plus sortir avec personne, mais elle y allait quand même parce que c'était une petite sortie, un cinéma, un machin comme ça. Bon, elle n'attendait pas qu'ils veulent venir avec elle. Et puisqu'il ne voulait pas, alors elle faisait quand même, mais elle me dit oh, j'aurais peut-être pas dû. Ben, je lui dis écoute, si, moi je trouve qu'il ne faut pas qu'il fasse chanter personne.
Oui,
en disant,
oui.
Je ne fais pas, tu ne fais plus rien.
Oui, oui. Donc j'ai l'impression que vous avez un peu plus de poigne qu'elle et que vous allez oser quelque chose qu'elle n'ose pas. Et ça l'aidera peut-être, votre belle-fille.
C'est possible. Oui,
ouais, j'entends ça, ouais, dans ce que vous dites.
Bon, mais... puis moi, je suis bien avec elle, puisqu'elle m'a appelée là pour me dire le compte-rendu du médecin.
Bon, bah écoutez, Jeanne, merci de nous avoir appelé. Hein, merci à vous.
Gentil,
bonne nuit.
Au revoir.
Au revoir, Jeanne.
Merci beaucoup.
Pour joindre Sophie Peters, appelez le 3921.
50 centimes la minute.
Bonsoir, Martine.
Oui, bonsoir, oui. Mmh. En fait, je voulais vous parler de la situation de mon fils,
oui.
Parce que depuis le début de l'année, j'ai le sentiment pour moi que ma vie s'est en quelque sorte arrêtée, et parce qu'en fait, à la rentrée des vacances de janvier, il a appelé son père pour parler d'un problème visuel, et il a parlé d'une décompensation ophtalmique et qu'il allait peut-être avoir des lunettes avec un prisme parce que les urgences de l'hôpital avaient dit peut-être il avait un strabisme qui avait été ignoré jusque-là.
Oui.
Et quand j'ai entendu ça, j'y ai pas du tout cru. Je me suis dit, oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis, bon, je me suis... peut-être que c'est ça. Et j'ai laissé passer un petit peu le temps. Il avait un second rendez-vous avec un orthoptiste. Et puis, qui n'a rien donné, en fait. Et ça s'est emballé. Comment l'ophtalmo l'a envoyé pour faire un IRM. Et aller sur l'IRM, il n'y avait rien de visible et c'était consultation en neurologie. Enfin, les choses se sont, ont été de plus en plus inquiétantes pour moi.
Oui.
Parce que, lui, il est resté sur la ligne qu'il somatisait un problème, en fait. Il a parlé de burn-out. C'est vrai que pendant les vacances de Noël, il avait dit qu'il souhaitait quitter son emploi.
Oui.
Oui. Il est psychologue.
Oui.
Et il est resté sur cette ligne-là de somatisation. Et moi, j'étais pas sur cette ligne-là parce que les symptômes visuels qu'il présente, j'en ai parlé à des médecins dans mon entourage et tous m'ont dit ça ressemble à un début de sclérose en plaques.
Ah oui.
Et c'est un petit peu comme si c'était des morceaux de puzzle.
Oui.
Que j'arrivais à mettre en place, en fait, parce que quand il a eu son diplôme de psychologue, donc j'étais très inquiète de savoir comment ça allait se passer sur le marché de l'emploi. Et comme je travaillais à ce moment-là dans un hôpital, j'avais eu l'information qu'il y avait un poste, mais un CDD de quelques mois.
Mmh.
Donc, il a postulé, il a eu le poste, mais parce que j'avais fait appel à des collègues, enfin, pour que ce soit plus facile. Et pour rentrer dans le milieu hospitalier, il a eu la vaccination de l'hépatite B. Et alors, j'étais complètement terrifiée quand j'ai su qu'il l'avait faite, quoi, parce que, j'étais déjà avertie que cette vaccination-là pouvait être à risque, parce que c'est quand même Il a toujours eu des problèmes de santé au niveau des allergies, des choses comme ça. Et donc là, vraiment, j'étais... Et pour moi... Ouais. Oui. Alors le souci aujourd'hui, c'est que... comment lui reste sur sa ligne et il évite le contact avec moi, en fait.
C'est quoi sa ligne, lui ? Il a quel âge déjà, Martine ?
Alors, il a 27 ans.
Il a 27 ans, ouais.
Oui.
Et qu'est-ce que c'est sa ligne, comme vous dites, il reste sur sa ligne, c'est-à-dire ?
J'ai fait un burn-out parce qu'en fait, là, maintenant, au niveau visuel, il a... des muscles oculomoteurs qui sont, enfin, alors lui il dit pas paralysé, mais le médecin traitant me l'a dit, et donc c'est ce qui provoque la double vision, en fait. Il n'arrive plus à avoir une bonne convergence puisqu'il y a, sans doute, ouais, des muscles qui sont paralysés, mm-hmm. et lui, donc, il est plutôt sur la ligne que c'est une faiblesse musculaire. Déjà, il est un niveau en dessous, et donc il dit, avec le burn-out, j'ai fait une... il fallait que je me repose. Et effectivement, il a eu une très grosse fatigue suite à l'apparition de la double vision.
Et aujourd'hui, il va comment, là, au moment où on se parle ? Est-ce que ça empire ? Est-ce qu'il est suivi ? Est-ce qu'il se repose ? Où est-ce qu'il en est aujourd'hui ?
Alors, il est en arrêt depuis le début janvier.
D'accord.
Et en fait...
Et il se soigne de quelle façon ?
Oui. Justement, c'est ça qui m'inquiète beaucoup, parce que la neurologue l'a vu une fois, mais ça fait déjà plus d'un mois. Et elle a prescrit un autre IRM pour évacuer un problème vasculaire auquel je ne crois pas. Enfin, mmh. Et là, elle l'a renvoyé dans le privé pour qu'il se débrouille à trouver un rendez-vous pour avoir la deuxième IRM.
D'accord.
Or, il est complètement démuni, il n'a pas de rendez-vous, il attend aussi un rendez-vous avec un ORL en privé qui n'a pas. Enfin, j'ai l'impression
Vous avez quoi Oui, l'impression qu'il ne prend pas en main sa santé, c'est ça?
Je pense qu'il fait ce qu'il faut, mais... Oui. Si moi je reste dans l'hypothèse d'un début de CEP, de toute façon, je veux dire, le diagnostic, il n'est pas pressé, en quelque sorte. De toute façon, là, on va dire, le mal est fait.
Là, ce qui est important, c'est qu'il se repose, c'est qu'il se soigne, c'est-à-dire qu'il fasse ce qu'on lui dit de faire en termes de soins. Quelle est sa vie aujourd'hui à 27 ans, vous dites, il en arrêt. Donc, il habite chez vous, il habite...
Non, il habite dans une autre région, en fait.
Vous l'avez régulièrement au téléphone, c'est ça ?
Pas autant que je le souhaiterais, parce que, en fait, mais justement, il y a ce souci-là, parce que je l'ai eu récemment au téléphone et il m'a dit, garde ton angoisse, je peux pas faire plus, et j'ai l'impression que,
c'est quoi votre impression?
Sur l'hypothèse de la CEP,
ce que vous dire, la CEP, c'est la sclérose en plaques, c'est ça?
Pour moi, ça.
Oui, mais attention, Martine, parce que là, vous n'avez pas encore de diagnostic. Alors certes, la sclérose en plaques, on sait, c'est entre 29 et 33 l'apparition, mais il n'y a pas de diagnostic pour le moment, et vous surrajoutez dans votre angoisse, et lui vous dit, garde ton angoisse, il vous l'a dit, c'est pour ça qu'il s'éloigne de vous. Et donc c'est pas soutenant pour lui, parce que qu'est-ce qui soutient un jeune adulte dans le fait de soigner ? C'est justement de ne pas angoisser, mais d'être plutôt très... très carré sur les rendez-vous, de façon que ce soit très factuel. Vous voyez, sans mettre de sentimentalisme ou d'affect dans les rendez-vous médicaux. Voilà, c'est qu'il y a des rendez-vous à assurer, il y va, on attend les résultats, et on commande pas. Et Voilà, après, une fois que quelque chose sera réellement diagnostiqué, qu'on saura, bon, mais votre inquiétude de mère, c'est pour lui, non seulement ça l'encombre, mais ça ne lui donne pas du tout envie de se soigner, il n'a qu'une envie, c'est de fuir.
Oui, enfin, je suis quand même, enfin, c'est un garçon sérieux, et il oui. est embêté de ne pas avoir ses rendez-vous, là, et comment, le généraliste, enfin, mon généraliste s'étonnait que le milieu hospitalier le soutenait pas dans la démarche vers le
privé. Peut-être que votre généraliste, il peut peut-être faire quelque chose, il peut peut-être intervenir, non?
Alors, justement, j'ai été le voir et comment au départ, par rapport à l'hypothèse de la CEP, il est rentré tout de suite là-dedans. Et depuis qu'il a eu un contact avec la neurologue, il dit, il a plus la même démarche, d'autant plus que c'est lui qui avait fait le vaccin de l'hépatite B. Donc, ça a un petit peu embrouillé... les choses, il s'est braqué un peu contre moi.
Votre fils,
c'est plus un allié en fait.
Ah, enfin, le médecin, vous voulez dire?
Généraliste, oui.
Ouais. Et pourquoi il s'est braqué contre vous?
Ben parce que j'ai dit, oh là là, je pense que ça, c'est à cause de la vaccination de l'hépatite B, quoi.
Oui, mais vous savez, Martine, si vous commencez déjà, vous, à faire des diagnostics médicaux et à anticiper des diagnostics alors qu'il n'y a pas les bons résultats d'IRM, qu'il n'y a pas des choses très tangibles, peut-être déjà, ce médecin, effectivement, l'a mal pris, mais quand on est novice en médecine et qu'on interprète ou qu'on surinterprète, alors je sais bien qu'aujourd'hui, avec Internet, on a accès à plein de données, mais ça reste quand même une discipline d'experts, de spécialistes, de scientifiques qui font leur métier. Et c'est important de ne pas se précipiter sur des diagnostics, parce que ils le disent tous, aujourd'hui, les médecins, qu'il faut presque plus soigner des patients qui s'inquiètent parce qu'ils vont trop sur Internet, ils lisent trop de choses, et quelquefois, ils viennent avec plein de choses en cabinet où ils savent déjà tout sur des maladies qu'ils ont imaginées. Enfin, j'ai l'impression que vous êtes un peu dans ce profil-là, Martine, et que que vous soyez vigilante ou là pour votre fils, pour qu'il ait ses rendez-vous, bien sûr, ça c'est important qu'il ait ses rendez-vous, mais pas d'anticiper sur des diagnostics qui sont pas établis. Voilà, oui. ça fait plus de peur que de... et ça fait du mal aussi, de la peur et du mal en même temps.
Mais quand j'en ai parlé à trois médecins en donnant les signes cliniques, ils m'ont tous donné la même réponse, quoi.
Oui, mais ils n'ont pas vu. Enfin, c'est comme, je veux dire, en tant que psy, si on parle de personne, on me demande de faire un diagnostic sur quelqu'un que j'ai pas vu, c'est pas possible. Vous pouvez pas établir un diagnostic sur quelqu'un que vous avez pas vu, pas examiné, où il n'y a pas eu d'échange. Enfin, c'est impossible. Enfin, vous pouvez aussi aller sur Internet et puis vous allez trouver 20 000 diagnostics sur des forums en disant moi j'ai ci, moi j'ai ça. Et on fait tout ça aujourd'hui. Dès qu'il y a une inquiétude, on va chercher à. Et j'ai l'impression que vous cherchez plutôt à valider votre sentiment et à valider votre diagnostic et à le faire valider par des médecins. Et comme dit Cécile, quid de la confidentialité des données médicales en plus, parce que voilà, c'est confidentiel des données médicales. Il y a une protection aujourd'hui. Donc c'est plus dangereux qu'autre chose que vous êtes en train de faire, Martine. C'est ça que je voudrais vous alerter là-dessus.
Je l'entends bien, je me suis sentie trop culpabilisée, quoi. Enfin,
par qui?
C'était moi qui lui avais trouvé cette.
Mais culpabilisée par qui? Oui.
Parce vous. Que je lui avais trouvé cet emploi-là et.
D'accord. Et vous avez l'impression qu'il a fait son burn-out parce que vous lui avez trouvé cet emploi-là qui ne lui convenait pas?
Non, parce qu'en fait, c'était un deuxième emploi qu'il avait là. Il n'est pas resté à l'hôpital, en fait.
Oui.
Donc, ma culpabilité, c'est de me dire j'ai mis la santé de mon fils en jeu pour quelques mois de travail dans un hôpital.
Mais ce n'est pas vous, Martine. Martine, vous y êtes pour rien. Vous y êtes pour rien sur les conditions de l'emploi. Et on sait aujourd'hui que dans certains hôpitaux, il y en a plein des burn-out. a ôté du stress. Donc, vous, vous avez mis en œuvre ce que vous pouviez, mais vous n'êtes pas responsable de comment ça s'est passé. Ça ne peut pas être votre responsabilité, Martine. Évidemment que non. Donc, vous n'avez pas rendu votre fils malade, si on fait le raccourci. Voilà, c'est parce que je pense qu'elle est là, votre angoisse.
En fait, le souci, c'est que j'avais l'impression, quand j'ai su qu'il a eu la vaccination, je me suis dit c'était le prix à payer pour avoir le job, quoi. Enfin, c'est comme si... Oui, j'étais vraiment terrifiée par cette chose-là.
Vous savez, Martine, quand on est une maman trop présente et un peu toute puissante, qui pense que tout passe par elle et que tout est à cause d'elle et que c'est si elle fait bien, si elle fait mal et qu'elle a vie et mort sur son enfant, c'est totalement étouffant. Il a la vie qu'il doit avoir. Vous avez facilité un stage. Vous savez, même les décisions qu'on prend sur des vaccins, on les prend en fonction de ce que nous disent les médecins à un moment donné de l'âge de nos enfants. On écoute, on fait confiance. Oui, quelquefois. Vous savez, dans les scandales médicaux, on entend que des parents ont donné tel médicament. Qu'est-ce que vous voulez ? Ce sont des événements terribles, éventuellement, de la vie, mais il n'y a pas de culpabilité. Il n'y a pas de faute de la part du parent. Vous n'êtes pas en faute, Martine. C'est ça que vous devez entendre. Oui. Parce que si vous êtes là-dedans, ça veut dire que vous détenez toutes les clés de la vie de votre fils, qui a déjà 27 ans. C'est pas possible, ça. Et pour lui, c'est pas possible. C'est angoissant pour lui-même.
La vaccination, connaissant son passé médical, a l'air de multiples allergies, enfin des choses comme ça.
Mais vous ne maîtrisez pas ça, Martine.
Oui, mais je ne lui ai pas dit.
Et ça aurait changé quoi ?
C'est dangereux de faire cette vaccination-là, quoi.
Mais Martine, mais aujourd'hui, sur les vaccins, la communauté médicale est quelquefois divisée, mais on sait que c'est plus grave de ne pas les faire que de les faire. Et on le sait bien. Hein. Écoutez les émissions de Michel Simès qui se met régulièrement d'ailleurs en colère sur ce sujet-là. Hein, parce que les gens angoissent sur des effets secondaires, alors qu'on sait qu'il y a plus de maladies aujourd'hui par des gens qui ne sont pas dans des vaccins à jour que des gens qui les font. Donc, Martine, là, je crois que c'est vous qui êtes extrêmement angoissée, hein, ce que j'entends. Et c'est vous, enfin, c'est important que vous puissiez baisser, faire quelque chose de cette angoisse et d'arrêter d'imaginer un peu tout. Alors, peut-être que la distance y rajoute, peut-être qu'il est loin de vous, il n'a que 27 ans, je comprends tout ça.
Oui, puis, vous disiez que j'étais une maman, enfin, je ne sais plus comment vous avez dit.
Toute puissante.
Le souci, c'est que quand il est parti à 18 ans pour faire ses études dans une autre région, justement, enfin, c'est un garçon complètement autonome, je ne m'en suis pas du tout occupée, je sais
oui,
même pas.
Non, mais ce n'est pas ça. Alors, Martine, attention, quand on parle de toute puissance en psychologie, c'est quelquefois, c'est pas très concret, c'est pas réel, ça ne se traduit pas dans des gestes ou ça ne se traduit pas dans les choses que vous faites, mais ça se traduit dans cette représentation que vous avez de lui et du rôle que vous jouez sur lui, là, sur sa santé, dans la façon dont je vous entends parler de lui et de ce rôle que vous vous donnez par rapport à ce qui lui arrive. C'est ça la toute-puissance sur quelqu'un. Oui. Et c'est psychique, en fait. Hein. Et lui, comme vos inconscients sont reliés, qu'est-ce qu'il fait ? Il le sent. Et il vous rejette. Il vous rejette parce que lui... Il ne peut pas supporter, il a déjà ses soucis de santé, et en plus, il va devoir porter l'angoisse de sa mère. Et le fait que sa mère l'envahit avec toutes ses inquiétudes, et peut-être qu'elle a mal fait, et peut-être que c'est l'histoire du vaccin, et peut-être que j'ai vu tel médecin qui a dit ça, qui a dit ça. C'est terrible pour lui, c'est excessivement lourd. Donc, j'essaie juste de vous alerter sur le fait que si votre point ce soir, c'est d'être au bon endroit avec votre fils, d'être la bonne mère que vous avez envie d'être, c'est ça que j'entends, moi, il est là, votre besoin.
Tout à fait.
Mais absolument, c'est votre question, elle est là. Donc, c'est d'arrêter autant de faire que ce peut d'avoir trop d'infos, de vous surangoisser ou de faire des diagnostics sans avoir des résultats et de rester très sobrement proche de lui en ce qui concerne des choses très factuelles, c'est-à-dire les rendez-vous, les difficultés éventuellement, si on peut l'aider à libérer ses difficultés d'obtenir des rendez-vous, ça doit s'arrêter là. Voilà. Mais ne pas aller sur le terrain de qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on aurait dû faire, qu'est-ce qui a pu provoquer ça. Et j'ai vu tel médecin et tel médecin pense que si. Parce que là, vous nourrissez votre propre angoisse et puis surtout, vous l'envahissez lui. Donc, que vous l'ayez, à la limite, bon, c'est vous. Mais surtout, qu'elle ne puisse pas être trop présente pour lui. C'est surtout ça qui compte.
Hein. Oui.
Et donc, Martine, alors...
qu'est-ce que je vais faire de mon angoisse, là, parce
oui,
que
j'entends bien, de vous faire aider, vous. Parce que ça, c'est vraiment important. Parce que sinon, vous devenez, vous, anxiogène pour votre fils, qui, lui, peut pas avoir accès à sa propre santé. Donc, ce qui est important, là, c'est d'aller consulter pour vous et de pouvoir libérer toute cette inquiétude. De pas avoir fait ce qu'il faut ou vu ce qu'il fallait. Vous pouvez pas maîtriser ça, Martine, c'est fini. Enfin, que je dis fini, mais c'est de tout temps. Enfin, même une mère dont le bébé ou l'enfant est malade, qu'est-ce que vous voulez, on est très, très démunis. Vous êtes évidemment très démunis. C'est terrible, un enfant qui est malade. Hein, et c'est évidemment excessivement inquiétant. Et forcément que ça questionne la mère, enfin, le parent, de se dire, bon, qu'est-ce que... On a tellement envie d'être là pour son enfant qui soit en bonne santé. Mais attention à ce que ça ne reste que à l'intérieur de nous, d'aller en parler avec un thérapeute, avec un psy, pour justement se faire aider, pour être le plus, j'allais dire, le plus fort possible. Il a besoin d'une maman forte, d'une maman solide, et pas d'une maman tout dans sa fragilité et dans son inquiétude. Hein, et une maman forte, c'est l'action, hein, dans ces cas-là. Hein. C'est de l'action. Il a besoin de quelqu'un d'action et pas de 20 000 paroles. D'accord. Donc ça, c'est important, Martine, vraiment.
D'accord.
Oui, j'entends que vous entendez là. Donc ça.
Oui, parce que je rencontre déjà un psychologue, mais.
Vous lui en parlez de ça?
Oui.
D'accord.
Bon, je le vois pas très souvent, mais.
Faudrait le voir plus souvent en ce moment.
Oui, mais alors c'est pas de chance parce que il va partir en retraite, donc il commence à diminuer son activité.
Oui, oui. Et mais vous, c'est une urgence, donc vous allez l'appeler et il diminue son activité, mais il va vous trouver un rendez-vous. D'accord. Il y a une urgence pour vous. Donc, vous y allez très vite et très bientôt.
Je
compte sur vous. Merci, Martine. Et faites confiance à la médecine et aux médecins qui vont s'occuper de votre fils. Ça, c'est important aussi. D'accord.
D'accord.
Je vous embrasse, Martine. Bonne nuit à vous.
Merci.
Au revoir.
Bonsoir.
Pour joindre Sophie Peters, appelez le 3921.
50 centimes la minute.
Bonsoir Marina.
Bonsoir Sophie.
Bienvenue.
Donc on va finir l'émission ensemble, c'est bien.
Bah oui, exactement.
Donc je vous avais appelé il y a un an, un peu plus d'un an, enfin quelques jours près. J'avais appelé au mois de février.
Oui.
Donc après l'anniversaire de mon plus jeune fils, j'ai 4 enfants.
Oui.
3 garçons, une fille. Et donc c'était ce plus jeune fils qui avait devait avoir 40 ans. Et je vous avais appelé pour vous dire que je découvrais quelque chose parce que je venais de m'installer dans la région où il vit. Et je savais qu'il y avait un problème, mais je n'avais pas imaginer que le problème était si lourd. Donc je vous avais appelé parce que j'étais complètement perdue, je ne connaissais pas ce milieu de la drogue et tout ce qui s'ensuit, et vous m'aviez donné des conseils que je ne prenais pas forcément très bien parce que je ne comprenais pas tout, et en fait je suivis vos conseils.
Oui.
Et en suivant vos conseils, vous me disiez d'être à son écoute davantage, de le féliciter quand il faisait quelque chose de bien, mais je trouvais qu'il ne faisait pas grand-chose de bien.
Oui, je me souviens, ça y est.
Ce n'était pas faux.
Oui.
Et donc, je suis allée dans votre sens.
Oui.
De toute façon, j'ai déjà, moi, de nature, un tempérament optimiste. Mm-hmm. Donc, je vois toujours le bon côté des choses, mais ce n'est pas facile. Je ne vais pas vous dire que ça a été à long fleuve tranquille. Ça a été très dur. Très dur. On est passé par des choses et au moment où on croyait que c'était bon, il a rechuté. Donc il y a eu des moments extrêmement pénibles. Et je pense que le déclic s'est fait par un acte manqué de ma belle-fille.
Oui.
Je vous dirais, je dis encore ma belle-fille, mais en fait le couple se sépare là. Mais en bonne intelligence, ils s'entendent très bien. Ça va bien se passer, une semaine sur deux les enfants, donc tout se passe bien. Mais elle n'en pouvait plus, hein. Ce que je comprends. Donc,
l'acte manqué, alors, ouais.
Alors cet acte manqué, c'est on a discuté ma belle-fille et moi parce que là ça n'allait plus du tout et il y a je sais pas environ 6 mois de ça, peut-être pas tout à fait. Enfin bref, il y a quelques mois, donc on discute toutes les deux et vraiment là c'était lamentable au niveau des enfants et tout. Ils s'en étaient pas occupés du gamin qui avait pas encore tout à fait 3 ans. Donc un matin et donc là on n'en pouvait plus ni l'une ni l'autre. On se parlait, j'ai dit écoute, là c'est plus possible, il va falloir faire arriver la ZE, faire venir quelqu'un parce que c'est plus possible, on peut pas continuer comme ça. Donc elle prend des notes et pour en parler à l'assistante sociale. Et puis elle pose ses notes chez elle. Mmh. Et lui, il avait oublié quelque chose, il va chez lui et il trouve ses notes. Donc toutes ses notes avec tout ce qu'elle avait noté, en parler à la ZE et dire ceci et cela, j'aurais pu vous dire le détail.
Ouais.
Et puis alors là,
sur son
là,
comportement à lui,
il veut quelque chose d'épouvantable. Mmh. Il a et donc il m'en a parlé.
Mmh.
Et moi, voyant le mot, j'ai su que c'était pas un truc qui était pour lui. Mmh. Moi, je savais de quoi il s'agissait, mais je ne pouvais rien dire. Et je lui, alors il me dit, mais tu te rends compte, elle veut me priver de mes enfants. J'ai dit, mais dis donc, tes enfants, quand tu les aimes, c'est pas à leur faire des bisous, c'est s'en occuper, tu ne t'en occupes pas.
Mmh.
Tu ne t'en occupes pas. Tu dois t'occuper de ton fils le matin, puisqu'elle a le travail de bonne heure. L'après-midi, c'est elle qui s'en occupe, c'est quand même bien. J'ai dit, là, pour le moment, tu ne travailles pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Comment veux-tu qu'elle soit d'accord? J'ai dit, si c'était moi, ta compagne, mais il y a longtemps, tu les aurais plus.
Ah, excellent.
Ça a fait un choc, il est parti excellent. Dans l'autre pièce, il a marché, il a fait... Alors après, elle m'a dit, il a fait une scène terrible, il a épouvantable, mais n'empêche que le déclic était là. Et à partir de ce moment-là, les choses ont complètement changé du jour au lendemain. Il a commencé à chercher du travail, malheureusement, il n'en a pas trouvé tout de suite, mais il en a trouvé. Bon, ça a pris 3 mois. Il a vu une assistante sociale avec moi, bien sûr, au départ. Je l'ai emmené partout sur les rails. Enfin, du moins, c'est moi qui m'a emmené parce que je ne conduis pas, mais j'ai dit on va attendre ensemble parce que
en
je sais que dans ces cas-là, ils ne sont pas patients, vous savez.
Ouais.
Donc, je suis allée avec lui les premières fois. Je dis je te préviens, je vais avec toi maintenant. Les premières fois, pour que tu saches où c'est, qu'on trouve et tout. Mmh. D'ailleurs, je me suis fait aider par un infirmier de l'hôpital parce que je savais pas trop où aller. C'est difficile hein, quand on sait pas, quand on connaît pas ces milieux-là. Lui qui m'a dit, dirige-toi vers tel endroit, dans une structure. Et enfin, quand on s'est dirigé par là, et tout va bien maintenant.
Mais bravo. Alors Marina, merci parce que ce que j'entends, et j'espère que Martine qui était juste à l'antenne avant vous entend votre témoignage, parce que vous êtes exactement dans ce que j'essayais de lui faire passer comme message, c'est-à-dire concret, je suis là, on va au rendez-vous, mais je commande pas parce que c'est ta vie et tu t'en occupes. Et c'est ça le soutien, en fait, une fois
c'est
adulte.
C'est le conseil que vous m'aviez donné, hein.
Ah oui, je me souviens pas toujours de tout ce que je dis, mais d'accord.
Ce que vous m'aviez dit. Ouais, j'ai essayé, j'ai tâtonné, c'est compliqué, c'est long, mais n'empêche qu'on est. Eh ben là, ça va très bien.
Qui est une question de présence.
Je l'aide toujours. Je lui fais son manger il prend son plat pour le travail et tout, parce que pour le moment, il n'est pas encore trop capable. Il ne s'est jamais occupé de rien.
D'accord.
Donc pour le moment, mais je lui ai bien dit, c'est momentané. C'est maintenant, après, tu vas voir, tu vas faire tout seul. Il dit oui, maman, j'en suis bien conscient.
Ah, extra. Donc, vous êtes en train de mettre en place tout ce qui concerne son autonomie.
Voilà.
D'accord. Et il est d'accord avec ça et il connaît la règle du jeu. En fait, vous lui avez donné la règle du jeu. D'accord.
Non, il me connaît. Hein. Quand je dis non, c'est non. Hein. Mm. Non, ça, il me connaît depuis toujours. Hein. J'ai toujours été comme ça. Mm. Ça, même quand ils étaient plus petits et tout, quand maman avait dit non, c'était non et je ne changeais pas d'avis. Donc là, il sait bien que je veux les mettre sur les rails. Oh maman, t'es formidable, tu m'aides. Et puis quand j'attendais l'antenne là tout à l'heure, j'étais en train d'attendre si on me rappelait ou pas. Et ben on était en train d'échanger par texto les commentaires sur le foot.
Excellent.
Alors, moi ça m'intéresse pas du tout,
d'accord.
Mais lui c'est un footeux. Donc je savais qu'il avait regardé le match et comme j'entendais les commentaires sur Europe, ben je lui mettais à s'envoyer des textos. Vous voyez ce qu'on n'aurait pas fait l'année dernière, quoi.
D'accord. Donc maintenant il
et
y a
je garde les bonnes relations avec ma belle-fille. Hein. C'est
oui, c'est ce que j'entends aussi. C'est-à-dire que là vous avez réussi,
on garde
Marina.
Les bonnes relations ensemble. Bah, oh, mais j'adore cette fille.
Ouais.
Mais si vous voulez, il y a eu un moment là. J'espère que je suis pas trop longue.
Non, je vous en prie.
Il y a eu un moment Je ne sais plus si c'est vous qui l'avez dit ou Sabine, peu importe.
Oui.
Mais en général, souvent, quand on a des gens un peu faibles comme ça, on a tendance à faire les choses à leur place.
Oui.
Elle ne faisait pas les choses à sa place, mais elle est trop parfaite. Mmh. C'est une fille qui fait tout bien.
Mais du coup, lui ne prenait pas sa place. Ouais.
Et il ne prenait pas sa place.
Ouais. Et surtout, moi, ce que j'entends, Marina, et c'est ça qui me plaît bien, c'est que vous avez confiance. Vous avez confiance dans le fait que lui va y arriver. Et du coup, c'est
vous,
ça qui fait.
Ah bah, écoutez.
Ouais. Ouais,
c'est
mais, mais c'est vous qui mettez en œuvre. Donc, c'est ça qui compte, Marina.
C'est ça. Je lui ai fait écouter le podcast,
ah oui,
de ce qu'on s'était dit.
Oui, et ça, il l'a
ah oui,
bien
il l'a
pris.
Traité,
il a compris. Bon.
Oui, oui.
Ah bah écoutez, ça fait chaud au cœur. Oui, il a compris que vous vouliez l'aider. Ouais, c'était ça qui comptait. Et
donc
ça.
Donc on a les résultats. Donc je suis vraiment ravie et je veux vraiment vous remercier
et remercier
Europe qui est ma radio depuis les débuts.
Oh bah écoutez, merci Marina, merci. Mais en tout cas, ça a fait chaud au cœur de vous entendre parce que voilà, vous mettez en œuvre, vous faites, vous êtes dans l'action et vous voyez les résultats que ça donne. Hein.
Oui,
évidemment, c'est de l'humain. Mais
c'est un peu votre introduction
ouais,
de ce soir. Et
exactement. Exactement.
Bien,
bah oui, ça tombe bien. Vous l'avez bien illustré. Je vous embrasse, Marina, et bravo encore à vous. Hein.
Moi
merci.
Aussi, Sophie,
merci.
Encore
merci. Merci, bonne nuit à vous.
Au revoir.
Au revoir. Bon, eh bien voilà, c'était un peu plus court que d'habitude, mais c'était toujours aussi bon d'être avec vous ce soir. Merci à Séverine, merci à Jeanne, merci à Martine et merci à Marina pour cette belle émission encore. Et puis, on va s'endormir avec Gustave Flaubert qui parle finalement très bien de la libre antenne d'une certaine manière. L'humanité est ainsi, il ne s'agit pas de la changer, mais de la connaître. Je vous souhaite une très belle et douce nuit et on se retrouve demain et c'est promis, absolument promis, à 22h30, très fidèlement et très chaleureusement. Il est 1h.